Vous écoutez Radio France Internationale, 6h30 à Paris, 4h30 en temps universel. Et tout de suite, c'est le journal avec vous, Xavier Besson, bonjour.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
Et on s'intéresse ce matin aux conséquences pour les pays africains des nouveaux droits de douane américains.
Direction dans un instant l'île Maurice, l'un des pays les plus touchés. Port-Louis qui craint pour son industrie textile notamment et pour ses pêcheurs et qui souhaite par la négociation faire évoluer la position de Washington. Dans ce journal également, le conseiller spécial pour l'Afrique de Donald Trump, il estime qu'il y a de bons signes pour la paix dans l'Est congolais mais que les États-Unis ne sont pas impliqués dans ce qu'il qualifie de détails. La RDC aussi avec le déplacement à Uvira du ministre congolais de la Défense, la République démocratique du Congo, où par ailleurs l'ancien président Joseph Kabila annonce qu'il va faire son retour. On dansera à Marrakech, au Maroc, reportage au festival de danse contemporaine On Marche. Et dans une dizaine de minutes, les sports avec Olivier Pron. On parlera de football avec les coupes continentales en Afrique et en Europe. L'heure des taxes donc, mais aussi des négociations. C'est il y a une demi-heure environ que les droits de douane supplémentaires décidés par les États-Unis sont entrés en vigueur. Parmi les pays africains aux chiffres les plus élevés pour ces nouveaux droits de douane, il y a notamment Madagascar. On en a parlé dans le précédent journal Afrique. Et c'est à lire un article sur RFI.fr sur l'inquiétude du secteur malgache de la vanille. Il y a aussi l'île Maurice, Port-Louis, qui ne taxe les importations américaines qu'à hauteur de 1,3%, mais qui se retrouve désormais avec des exportations taxées à 40%. L'île Maurice qui exporte aux États-Unis notamment du textile et des produits de la pêche. Cela représente tout de même un dixième de son commerce extérieur. Et les autorités mauriciennes tentent de s'organiser. Correspondance d'Abdullah Erali.
Le coup de force commercial de Donald Trump a ébranlé les milieux économiques et politiques de Maurice. Face à cette situation, le Premier ministre Navin Ramgoolam espère pouvoir intervenir personnellement auprès du président américain.
Si je rencontre Trump, je peux le convaincre d'annuler ce taux de 40%, j'en suis sûr. Mais encore faut-il pouvoir le rencontrer.
Maurice se retrouve parmi les pays les plus sévèrement sanctionnés. De quoi désarçonner l'association des exportateurs mauriciens, selon son président Dominique de Froberville.
Il y a un certain nombre d'entreprises mauriciennes qui n'exportent que chez les États-Unis. Nous faisons un tour d'horizon pour comprendre l'impact que ça aura pour l'industrie manufacturière mauricienne.
Les exportations vers les États-Unis ne représentent que 10% du commerce extérieur mauricien. Pourtant, quatre secteurs cruciaux sont directement menacés. Les singes de laboratoire, le textile, la joaillerie et certains produits de la mer. La Chambre de commerce multiplie en ce moment ses consultations. Drishti Ramdeni, secrétaire général de la Chambre.
Nous avons rédigé aujourd'hui un document mettant en évidence de manière quantitative les impacts que nous soumettrons au ministère et puis à différentes autorités.
De leur côté, les analystes redoutent également la fin de l'AGOA, le programme d'accès préférentiel au marché américain pour les pays africains, ainsi qu'une récession mondiale qui va affecter le tourisme et les services financiers mauriciens. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
Et nous serons en ligne avec notre correspondant à Washington dans le prochain journal sur RFI dans un peu moins d'une demi-heure. Les États-Unis aussi, avec le conseiller spécial du président Donald Trump pour l'Afrique, qui était hier au Rwanda, Massad Boulos, il y a rencontré le président Paul Kagame après s'être rendu ces derniers jours en RDC, au Kenya et en Ouganda. Et comme lors de ses précédentes étapes, il a été question du conflit dans l'Est congolais où Kigali soutient les rebelles du M23 et aussi des investissements américains dans la région. Correspondance de Lucie Mouillot.
Selon le conseiller américain Massad Boulos, trouver une solution au conflit à l'est de la RDC est essentiel afin de favoriser l'essor d'une économie régionale prospère. Questionné sur d'éventuelles pressions des États-Unis sur le M23 et l'armée rwandaise au Nord Kivu, le diplomate a plutôt voulu insister sur l'importance du dialogue entre les parties.
Nous ne sommes pas impliqués dans ces détails, ce sont des affaires internes. Les parties concernées sont engagées dans un dialogue. Ce n'est pas une question de pression ou d'absence de pression, c'est une question de paix. Nous souhaitons voir la paix s'installer et nous pensons qu'il y a de bons signes dans ce sens. Nous aimerions voir une paix durable et une stabilité dans la région et en RDC.
Le président Donald Trump est convaincu que les populations ont trop souffert et qu'il est grand temps de voir une issue pacifique au conflit. Affirme Massad Boulos. Le conseiller est également revenu sur la suspension suite aux avancées du M23 des opérations de la société minière américaine Alphamine dans les gisements d'étain de Bizi. Olivier.
Un tel acteur sur la scène mondiale, c'était très triste de les voir suspendre leurs opérations. Nous avons vu les progrès réalisés ces derniers jours et c'est excellent. Ce sont des questions purement internes. Nous espérons qu'ils poursuivront le dialogue et continueront dans la bonne direction.
Nous soutenons la sécurité et l'intégrité territoriale de tous les États de la région d'Afrique des Grands Lacs, assure Massad Boulos, ajoutant que les États-Unis restent engagés dans l'effort de paix. Lucie Mouyo Kigali, RFI.
Et à propos du conflit dans l'Est congolais, où le M23 occupe de larges pans des provinces du Nord et du Sud Kivu, notamment les capitales, Goma et Bukavu. Avant-hier, lundi, le ministre de la Défense congolais était en déplacement à Uvira, la deuxième ville du Sud Kivu. Rencontre notamment avec des groupes Wazalendo, c'est-à-dire des miliciens locaux, alliés avec l'armée congolaise, et qui parfois, et de plus en plus visiblement, semblent s'affranchir des règles. Explication avec Patient Ligodi.
Souvent natifs à des zones de conflit, les Wazalendo connaissent bien le terrain. Ils sont parfois en première ligne face à la FCM-23, mais à Uvira et dans la région, ils n'hésitent pas à désarmer certains militaires et FRDC accusés de pillage. Eux-mêmes ne sont cependant pas exempts des critiques. Uvira, devenu chef-lieu du Sud Kivu depuis que Bukavu est contrôlé par la FCM-23, connaît un regain d'insécurité depuis la mi-février. Une période marquée par l'évasion massive de la prison locale et l'afflux de militaires venus de plusieurs fronts. Les Wazalendo, ces groupes hétéroclites appelés volontaires de la patrie par les autorités, affirment défendre la nation, mais lundi, face au ministre de la Défense, leurs délégués ont exprimé leur ras-le-bol. Où sont les moyens dont on parle? Nous manquons des logistiques et même de nourriture. Si nous n'avons rien, nous irons nous servir auprès de civils. Certains d'entre eux sont accusés de détournement aux postes frontières, facilitant l'entrée de marchandises sans paiement des droits des douanes, notamment depuis la Tanzanie et le Burundi. Il y a 5 jours, une dispute autour de ces pratiques a fait 1 mort et 4 blessés. Face à cette situation, la société civile demande une identification claire de ses combattants. Tenues distinctes, brassards numérotés pour éviter les abus.
Patient Ligodi. La République démocratique du Congo, où l'ancien président Joseph Kabila annonce son retour, lui qui vit à l'étranger depuis 1 an environ. Retour qu'il justifie dans une déclaration écrite par la situation sécuritaire et institutionnelle du pays. D'après ses proches que nous avons joints, ce retour au pays pourrait avoir lieu dans les prochains jours par l'Est congolais. Des proches qui n'excluent pas que l'ancien président prenne part aux actions de la FCM23, lui, n'en dit rien dans son communiqué. Tous les détails dans le prochain journal Afrique, dans 1 heure. En tout cas, son parti politique, le PPRD, comme la plupart de l'opposition congolaise, n'a pas pris part aux consultations menées à Kinshasa ces 2 dernières semaines en vue d'élargir le gouvernement. Des consultations qui ont pris fin hier, et le conseiller spécial du président Tshisekedi en charge des discussions devrait remettre son rapport au chef de l'État dans les prochains jours. À propos de la RDC, sachez aussi que les 3 Américains condamnés à la peine de mort pour leur participation à ce que les autorités congolaises ont qualifié de tentative de coup d'État en mai de l'an dernier, ces 3 hommes ont été remis aux autorités américaines. Leur condamnation avait été avant cela commuée en peine de prison à vie. Les États-Unis, dont la pression sur le Soudan du Sud a fini par payer, Juba finalement a annoncé hier accepter de reprendre sur son territoire un ressortissant congolais expulsé sous un faux nom. Après un premier refus, Washington avait décidé de révoquer tous les visas accordés aux Sud-Soudanais. Au Soudan, on approche des 2 ans de guerre civile entre l'armée nationale et les paramilitaires FSR du général Emeti. Ces dernières semaines ont été marquées par des progrès de l'armée soudanaise, notamment à Khartoum et dans le centre du pays. Et les autorités poussent ceux qui ont fui vers l'Égypte à rentrer chez eux. D'après un recensement officiel de l'ambassade du Soudan au Caire, ils sont plus 1 million à avoir franchi la frontière depuis le début de la guerre. Et certains commencent à faire le chemin retour, même s'il faut parfois patienter à la frontière pendant plusieurs jours, nous raconte Touda Ibrahim.
L'armée soudanaise, qui encourage fortement ses retours, multiplie les facilités offertes aux volontaires désireux de regagner le pays. Des billets d'avion à bord de la compagnie nationale sont proposés à moitié prix et le voyage est complètement gratuit pour les enfants des martyrs de la guerre. Des organisateurs pour ce retour collaborent avec l'ambassade au Caire. Par ailleurs, des richissimes hommes d'affaires soudanais offrent de l'argent pour aider à ce retour. Malgré ces facilités, la grande affluence et la lourdeur bureaucratiques, surtout du côté égyptien, font de deux points de passage frontaliers entre les deux pays une zone noire d'attente et de souffrance pour les voyageurs soudanais. Ils s'entassent par centaines du côté égyptien. Hier, une femme est décédée en attendant de pouvoir traverser la frontière via le point de passage d'Arkin. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent les autobus qui s'accumulent. Pour expliquer ce retard important, les autorités égyptiennes rejettent la faute sur la nécessité de transporter le bus sur un bateau vers l'autre rive du Nil, ce qui prend beaucoup de temps.
Ouda Ibrahim. Et puis, au Maroc, la ville de Marrakech vibre toute cette semaine au rythme de la danse. C'est On Marche, festival de danse contemporaine, 18e édition dans les salles, mais aussi dans les rues de la ville. Reportage de Muriel Mahalouf.
La danse pour moi, c'est le cri, c'est la vie. Un enfant, il danse d'abord avant de tout faire, avant de savoir ni faire de la musique, ni chanter, ni écrire.
Taoufik Azidiou, directeur et fondateur du festival de danse On Marche à Marrakech, à la fois en sonar. Et il faut l'avoir pour mener ainsi un festival de danse contemporaine au Maroc. Ici, les artistes sont multitâches. On danse, mais on peut aussi changer une lumière, monter un gradin pour le public ou prendre la caméra pour réaliser une vidéo. Car si l'argent est rare, les volontés sont là et une place égale est offerte aux artistes confirmés et aux jeunes talents.
Mon grand souhait, c'est qu'on arrive à devenir dans le sud un référent où il y a d'autres artistes internationaux qui ont envie de venir jouer chez nous et pas que nous, qu'on a toujours envie d'aller à l'international et pourquoi on n'était pas choisi dans cette édition, pourquoi on n'était pas programmé là, et c'est frustrant. Donc alors il vaut mieux qu'on construit chez nous, qu'on avance chez nous et qu'on devient, nous, le référent.
En tout cas, toute cette semaine, la ville vibre au rythme de la danse. Dans l'espace public, comme dans la célèbre place Jemaa el-Fna, ou dans les salles. Muriel Mahalouf, Marrakech, RFI.
À Marrakech, il est